entreprendre.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Fort et Relu à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 MHz sur Radio Plaisance en Périgord noir.
Bonjour à toutes et à tous. Fort et reclus à l'Elysée, un nouveau volet de notre série sur les violences policières avec aujourd'hui une intervention de Mathieu Rigouste. Mathieu Rigouste qui est chercheur en sciences sociales et dans le dernier livre Les marchands de peur, la bande à Bauer et l'idéologie sécuritaire est parue aux éditions Libertalia. Mathieu Rigouste intervenait lors de la rencontre organisée par le comité Vérité et Justice pour Hakim Hajimi le 5 février 2011 à Nice. Et son intervention s'intitulait « Violence policière et désignation de l'ennemi intérieur ». Donc on va écouter cette intervention et ça sera suivi du débat qui a été enregistré à l'issue de cette petite conférence. Quoi.
Ce livre s'appelle « L'ennemi intérieur ». Je vous résume très rapidement le contenu. Et après, je vais essayer, dans le quart d'heure qui restera, de vous donner des outils pour montrer ou comprendre, pour ceux qui ont du mal à comprendre, que la violence policière est quelque chose de systémique, de structurel et qui n'a rien à voir avec quelque chose d'accidentel, comme le laisse supposer le mot bavure qu'emploient les médias dominants, justement pour le cacher. Alors, cette thèse, elle est basée sur des archives de l'armée. J'ai essayé de montrer comment, en regardant la manière dont l'État, la police et l'armée désignent la figure de l'ennemi intérieur, comment dans cette manière de désigner ceux qui nous menacent à l'intérieur, qu'est-ce qui est à nous, la propriété, quel est le territoire à défendre, qui sont ceux qui menacent, etc. Finalement, comment on mettait en place des systèmes de surveillance, de contrôle et de répression qui servaient un système social général, hein, des rapports de domination. Et donc, j'ai montré à travers ça que, en gros, le système sécuritaire tel qu'on le vit aujourd'hui dérive en partie des techniques militaires expérimentées pendant les guerres coloniales. Et qu'en tout cas, les colonies ont servi de laboratoire, de terrain d'exception pour expérimenter une nouvelle technologie de violence, une nouvelle technologie de coercition sociale qui petit à petit a sédimenté, a été réimporté dans la police, notamment à partir de 68 et surtout à partir du début des années 90. Voilà, c'est pas le sujet de cette communication. Je pense que les minutes que j'ai permettront de parler de plein d'autres choses. Je vous disais, considérer la violence policière comme quelque chose de systémique, c'est pas une vue théorique de l'esprit. Et je crois que le meilleur exemple a été donné tout à l'heure sur l'histoire de la formation aux clés d'étranglement. Il n'y a donc pas des gens qui seraient minoritairement ou majoritairement dans la police des racistes ou des gens méchants, etc. Il y a une institution qui forme à utiliser des techniques de coercition. Cette technique-là, elle est donc bien enseignée dans les écoles de police à tous les membres de la police, et en particulier, la BAC dont je parlerai tout à l'heure, mais aussi la police chargée des expulsions qui s'en sert assez régulièrement. C'est cette technique qui a tué Hakim Hajimi. Et cette technique, finalement, à chaque fois qu'elle est employée, elle pourrait tuer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un policier s'en sert, il prend le risque de tuer. La violence policière est quelque chose de systémique, elle est enseignée, elle est structurelle dans les écoles de formation à la police. Maintenant, je vais revenir aussi sur certains mots. On parle de racisme dans la police. Et alors moi, la question, encore une fois, c'est pas de dire il y a des policiers racistes, d'autres qui sont pas racistes. J'en ai à peu près rien à faire. C'est le fonctionnement de la police comme institution. Et en l'occurrence, utiliser les mots bougnoule, etc., c'est la surface, c'est le sommet de l'iceberg du racisme. Le racisme, c'est une forme de société aussi. C'est le fait que les descendants de la colonisation n'aient pas accès aux mêmes droits. C'est le fait que dans le travail, ils soient surexploités. c'est le fait qu'ils meurent beaucoup plus de la violence policière, qu'ils soient ségrégés dans certains quartiers, donc là je parle des classes populaires en général, c'est le fait de se faire expulser quand on n'a pas de papier. Le racisme, c'est là aussi des institutions, des structures dans une société. C'est-à-dire que la police qui expulse des étrangers privés de papier développe une violence raciste formidable sans utiliser le mot bougnoule. Il n'y a pas besoin du mot bougnoule pour expulser des gens et détruire leur vie. Tout à l'heure, je me suis un petit peu demandé, parce qu'on a expulsé un de mes amis il y a un mois. On l'a expulsé sans le frapper et sans le traiter de bougnoule. On l'a expulsé en Algérie, on a détruit toute sa vie familiale sans le taper, sans l'insulter. En plus, donc il avait fui le service militaire en Algérie. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Et à mon avis, ça va très très mal pour lui. Et il y a d'autres structures qui ont pris en charge le relais de cette violence. Donc le simple fait d'expulser quelqu'un, on peut détruire sa vie. On détruit généralement sa vie, parce que s'il ne veut pas partir, en gros, c'est qu'il a envie de rester pour des bonnes raisons. Et donc il n'y a pas besoin de l'insulter ou de lui faire une clé d'étranglement pour développer une violence systématique et extrêmement profonde. J'en viens donc à la question de la police. Et à mon avis, cette majorité de policiers dont on parlait tout à l'heure, qui ne comprennent pas pourquoi on les accuse de bavure, je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils savent pertinemment que leur métier, on ne peut pas faire la police sans utiliser la violence. Et c'est ce qu'ils répondent à chaque fois qu'on les accuse de bavure. On dit, mais attendez, vous nous envoyez dans les quartiers populaires, vous nous envoyez contraindre des gens, comment vous voulez qu'on fasse ça sans utiliser la violence? Et effectivement, la police ne peut pas fonctionner sans utiliser la violence, de sorte que ce sera un petit peu ma conclusion. Mais en l'occurrence, je ne pense pas qu'on peut dissocier police et violence policière. La violence est le mode de fonctionnement de la police. Elle se définit comme maintien de l'ordre. La police sert à maintenir l'ordre, je le dis, et c'est aussi comme ça qu'elle se pense elle-même. Mais alors, maintenir quel ordre? On est dans un ordre inégalitaire, je pense que ce n'est pas une découverte pour vous, c'est le fond de toutes mes recherches. J'essaye de savoir pourquoi ça tient. Comment se fait-il qu'une société organisée sur la domination d'une minorité, la domination économique et politique d'une minorité, sur la majorité travaille, se fait exploiter toute sa vie, et une minorité fait du profit. Comment il se fait que ça tient? Alors, la première partie de mes recherches, je travaille beaucoup sur les médias, sur les discours, et donc en essayant d'expliquer qu'il y a de l'idéologie, on trompe les gens, on leur empêche de comprendre les rapports de domination. Sauf qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des techniques de répression. La répression fonctionne pour maintenir l'ordre, la police maintient un ordre inégalitaire. Elle utilise la violence pour faire ça. C'est-à-dire que la question de savoir s'il y a une minorité ou une majorité qui sont méchants, racistes, violents, elle ne se pose pas en termes d'institution. La police, c'est une institution qui maintient l'ordre. Point. Quand on parle de violence policière, les sociologues qui sont spécialisés sur la police, que je ne suis pas, je travaille en ce moment sur les violences policières, mais je ne suis pas un sociologue de la police, mettent souvent de côté, ils s'intéressent essentiellement au passage à l'acte. Et donc ils montrent que depuis le début du XXe siècle, par exemple, la police tue moins. Mais alors, par exemple, parce qu'ils ne prennent pas en compte le nombre de morts en prison. L'année dernière, on a explosé tous les records, il y a eu 117 suicides en prison, et je dis suicide avec des gros guillemets, parce que la plupart du temps impossible de savoir comment sont morts les personnes qui meurent en prison. On a depuis le milieu des années 70 à peu près 300 morts, un petit peu plus maintenant, de personnes qui ont été abattues par la police, la plupart du temps dans les quartiers populaires, la plupart du temps issus de la colonisation, et quand je dis issus de la colonisation, en fait, je veux dire non blancs, noirs ou arabes. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de systématique. Et quand tout à l'heure je parlais, je demandais, on ne m'a pas répondu d'ailleurs, c'était quand cette police qui n'était pas violente? Ou c'est quoi cette police républicaine? Mais très sincèrement, allez chercher, c'était quand? Ça n'a jamais existé. Contre-révolution après la Révolution française, 1848, je ne sais pas, les peuples se soulèvent, essayent de conquérir une émancipation, massacre total de tous les ouvriers. 1870, un essai de libération encore, massacre total, je vous passe sur la collaboration, etc. On n'a jamais vu ça. Parce que il faut arrêter peut-être de se scandaliser de ça, parce que là, le travail de la police, ils sont payés pour ça, et c'est pour ça que les policiers eux-mêmes ne comprennent pas quand on les accuse de bavure. C'est leur travail, c'est d'utiliser la violence. Leur travail, c'est de maintenir l'ordre, de maintenir les rapports de domination. Et donc, je vais essayer de vous faire une petite histoire de la BAC, puisque c'est la BAC, là pour le coup, qui a assassiné Hakim Hajimi. C'est souvent la BAC, d'ailleurs, et vous allez comprendre peut-être pourquoi, qui est à l'avant-garde de la violence policière aujourd'hui. Cette histoire de la BAC, je vais la faire pour essayer de vous montrer qu'en fait, on n'a donc pas de la violence policière, on a un système de violence policière. un système de violence policière qui, comme ça a été dit tout à l'heure, s'intègre à tout un système de domination, c'est-à-dire qu'en gros, les coups du flic se trouvent sur une ligne entre les processus d'exclusion de l'instit et les passages à tabac du maton, notamment quand on grandit dans les quartiers populaires. Mais ça ne fonctionne pas comme ça pour tout le monde, puisqu'effectivement, les classes dominantes ne subissent pas la violence policière. Et ça, c'est très clairement, ça nous montre très clairement à quoi sert la police. Est-ce que quelqu'un peut imaginer ici que M. Wörth ou Mme Bettencourt, si tant est qu'un jour on vienne les chercher, on leur fasse une clé d'étranglement pour aller les chercher? C'est pas possible. C'est pas possible parce que les policiers ont intégré la nature de leurs clients, parmi leurs clients. Et ils savent très bien reconnaître, moi je l'ai vécu, d'ailleurs j'ai oublié de me présenter, j'ai grandi en banlieue parisienne, comme vous voyez je suis blanc, donc j'ai vécu ces choses-là, j'ai vu aussi la différence qu'il y avait quand j'avais une capuche ou quand j'en avais pas, quand j'étais avec trois potes arabes et noirs ou pas, quand je parlais comme je parle tout de suite ou quand j'utilisais un langage un petit peu agressif avec la police. Les policiers incorporent, incarnent toute une série de codes pour reconnaître ceux qui sont pour eux menaçants. Et donc là, je vais juste vous donner quelques outils aussi de sociologie quantitative. Les passages à l'acte, la plupart du temps, et donc dans les études sur les États-Unis, l'Angleterre, le Canada et la France, en analyse comparée, les facteurs principaux du passage de l'emploi de la coercition physique, c'est la peur des policiers. Donc, c'est-à-dire que quand en permanence on leur explique que les quartiers populaires sont des quartiers menaçants, etc., et donc ils y vont en guerre, etc., ça développe cette possibilité du passage à l'acte. Mais ce n'est pas le principal des facteurs. Le principal des facteurs, c'est les inégalités socio-économiques. C'est-à-dire que plus les inégalités se renforcent, plus on voit le système de violence policière se transformer pour encadrer ça. Parce que le système de violence policière sert à encadrer les inégalités socio-économiques. L'histoire de la PAC que je vais faire, je vais la lier à une histoire de la ségrégation. Parce que c'est à ça, notamment, que sert la police. Elle sert à ce que les gens restent dans leur case sociale, qu'ils n'en sortent pas. Et que leur comportement se soumette à un certain nombre de codes qui sont appliqués pour eux, parce qu'ils appartiennent aux classes populaires, etc., qui continuent à travailler, etc. Je passe là-dessus. Un dernier facteur, un des derniers facteurs, c'est l'impunité. Et c'est pour ça que ça va être lié au débat aujourd'hui, c'est le fait que quand on frappe, tabasse, contraint, tue, quand on n'est pas puni par la justice, moi aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, je ne crois pas en la justice. Disons, je sais que c'est une justice de classe. Par contre, je crois qu'on peut continuer de se battre et que c'est ultra important de se battre pour faire reculer ces choses-là. Parce qu'à chaque fois que les policiers sont accusés, ils ont en tête cette chose-là, que finalement, ils ne peuvent pas tuer, ils ne peuvent pas tabasser sans qu'il y ait une réaction. Et donc, je soutiens totalement toutes les procédures de mise en accusation des policiers pour leur violence. Par contre, je sais que la justice sert les intérêts de la bourgeoisie. L'impunité, le fait que les policiers ne soient pas punis, leur permet d'employer en permanence la violence, en sachant pertinemment qu'ils ne risquent pas grand-chose. Je vous donne un exemple assez concret. Après le meurtre à Grenoble, cet été, je ne sais plus son prénom, Karim Loubda. Donc, sur les blogs de la police, à la suite de ce meurtre, il y avait une blague qui circulait et qui consistait à dire que le meilleur moyen d'être muté dans le Sud, maintenant, c'était de buter un jeune. Parce que c'est ce qui se passe la plupart du temps. On est muté de commissariat et donc on est muté ailleurs. Et donc la blague, c'était « Tuez un jeune, vous aurez votre mutation dans le Sud ». Pour en venir à cette histoire de la BAC, essayer de vous montrer un peu ce lien qu'il y a entre les rapports de domination et la forme de la violence policière. Le moment fondateur du système de domination contemporain, je crois, c'est l'esclavage, c'est la plantation. C'est là que se sont mises en place la plupart des rapports de domination actuels, la conscience blanche du pouvoir occidental. Et surtout, on peut le voir, même les systèmes d'exploitation, la fabrique, le prototype de l'usine naît aux Antilles, dans les fabriques de sucre et de coton. Bref, il faut maintenir les esclaves dans un certain système de domination, dans un système de soumission. Quand apparaissent des esclaves affranchis ou des mulâtres, des métis, qui sont nés du viol systématique des esclaves par leur maître, on a donc une population visiblement noire qui est libre du point de vue du droit, du point de vue du code noir. Qu'est-ce qui est mis en place directement? On voit le système de violence répressive se transformer et donc ces noirs libres vont être soumis à la catégorie libre de couleur et on va leur appliquer exactement le même système de répression que les esclaves. Parce qu'il fallait maintenir la classe des esclaves, et là en l'occurrence la classe des Noirs, dans un certain système de soumission. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis quand on abolit l'esclavage? On se rend compte que jusque au milieu des années 30, le lynchage collectif persiste. Pourquoi il persiste? Parce qu'il y a une impunité totale. Ce n'est pas puni. Les Blancs sont autorisés tacitement à lyncher des Noirs quand ils considèrent que c'est... quand ils le veulent. Ça baisse à un moment où les Noirs s'organisent et mettent en place toute une série d'associations, de formes d'autodéfense par rapport à ça. Au moment où donc le lynchage baisse, c'est exactement, ça se joue à quelques mois après, c'est exactement au moment où on voit se développer les Urban Unit Police, c'est-à-dire les polices, les unités de police urbaine qui sont spécialisées dans le contrôle, alors notamment dans les États du Sud, des populations noires, et c'est le moment où on voit se développer un système de violence policière contre les Noirs. C'est-à-dire que le lynchage de la population blanche disparaît, se mettent en place des institutions policières chargées de maintenir un système de violence qui contient la classe noire dans un statut de domination, et on voit se développer un système de violence policière particulier. Il se passe à peu près la même chose en France, et donc là j'en viens à mon histoire de la BAC, vous allez comprendre, j'espère. La BAC est une technique de police particulière. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à les côtoyer, la BAC c'est donc des unités où c'est 3-4 personnes, souvent en voiture banalisée et en civil. La police en civil, ça existe depuis l'invention de la police. Le fait de pouvoir pénétrer la population en étant caché, ça existe depuis la naissance de la police. La police est créée sous Louis XIV exactement au même moment que le Code Noir, c'est-à-dire, et avec les mêmes mots, la sécurité publique. On parle de la sécurité publique aux colonies. Il faut réprimer les Noirs pour maintenir la sécurité publique aux colonies, et à ce moment-là, on lance une chasse massive à tout ce qu'on appelle les oisifs, les mendiants et les gens sans aveu en métropole. Exactement au même moment et autour de cette même idée, il faut protéger la sécurité publique, c'est-à-dire en l'occurrence la sécurité des dominants. Donc la BAC est une technique de police particulière, particulièrement agressive, et qui utilise la provocation. Et je vais vous montrer pourquoi, et comment ça se développe et comment ça s'institutionnalise. Une des racines de la BAC, c'est les brigades mobiles, les brigades du Tigre. Ça se met en place au début du XXe siècle, face aux violences sociales, au militantisme anarchiste, face à certaines nouvelles formes de banditisme, on utilise des voitures, etc. En tout cas, on considère qu'il faut donner une forme de pouvoir judiciaire à certains policiers. Une forme de pouvoir judiciaire, ça veut dire une semi-autonomie. Ça veut dire qu'ils peuvent aller enquêter tout seuls, et qu'ils ont à la fois le pouvoir coercitif, mais aussi le pouvoir de juger. Ils peuvent dire, ah tiens, lui il est suspect, on va l'arrêter, on va l'emmener. En théorie, dans la mythologie d'État, de la séparation des pouvoirs, il faudrait qu'un juge dise, écoutez, oui, donc celui-là est effectivement suspect, emmenez-le. Ça n'existe pas dans la réalité. Donc on crée les brigades mobiles dans l'idée de pénétrer les milieux ouvriers pour aller se saisir de la gangrène rouge et anarchiste en général. On va les doter c'est la naissance de la police technique et scientifique en même temps, c'est-à-dire qu'on va les doter d'instruments et de matériel, et puis notamment des premières voitures. L'autre racine de la BAC, c'est les brigades coloniales. Dans les années 30, et en fait jusqu'en 45, à Paris notamment, mais il y en a d'autres un peu partout en France, on a quelque chose qui s'appelle les brigades nord-africaines. C'est donc des unités de police dans lesquelles on intègre beaucoup de colonisés, donc autour de l'idée que si on utilise des Arabes pour contrôler les Arabes, ça permet de dire qu'on n'est pas raciste, et aussi autour de l'idée que les Arabes connaissent très bien les Arabes, etc. C'est toute la logique coloniale, et à ce sujet là il n'y a jamais eu autant d'élus musulmans en France que pendant la guerre d'Algérie. On pourra y revenir après si vous voulez. Les brigades nord-africaines torturent bien avant la guerre d'Algérie, elles font disparaître des gens bien avant le 17 octobre 61. Elles utilisent une violence systématique, permanente, contre les populations qu'elles sont censées contrôler, les Nord-Africains, comme on les appelle à l'époque, les Nord-Africains. Ça fait pas très propre dans un système qui se clame haut et fort patrie des droits de l'homme, etc. Et donc, les brigades nord-africaines sont dissoutes en 45. Au même moment où on dit, oui, les colonisés auront les mêmes droits que les autres, et où on organise des élections truquées, notamment en Algérie, pour rétablir les rapports de domination. Il faut pas très longtemps pour qu'on recrée les nouvelles unités exactement sur le modèle des brigades nord-africaines, et les textes sont clairs là-dessus. En 1953, alors qu'on voit émerger parce que depuis les années 30, la rébellion s'organise en Algérie, mais en 53, on est désormais à peu près sûr qu'il va se passer quelque chose en Algérie, et on décide de rétablir des formes de brigades sur le modèle des brigades nord-africaines, mais là, on ne peut plus se permettre de les appeler brigades nord-africaines, puisque le nazisme est passé par là, etc., ça ne fait pas très propre. Donc on va les appeler les brigades agression et violence, BAV, les BAV. Et c'est de là que vient la généralisation du mot bavure. Parce que ces BAV, utilisant exactement les mêmes techniques que les brigades nord-africaines appliquées aux colonisés, elles font tout autant de bavures, elles utilisent un système de violence. En fait, elles calquent à peu près le même système de violence policière que celui qui avait été inventé par les brigades nord-africaines. Et donc là, elles les calquent. En théorie sur la population en général, mais dans le contexte de la guerre d'Algérie, elles vont être là encore envoyées directement contre les colonisés en métropole. En 62, ces brigades sont dissoutes. En 68, et donc là c'est une partie de mon travail, moi j'essaye de montrer comment en 68 on a été chercher dans le répertoire de la contre-révolution coloniale des outils qu'on va appliquer à la population en général, ça c'est dans l'idéologie dominante, mais qu'en fait on va appliquer aux classes populaires en particulier, comment on va aller chercher dans ce répertoire de la contre-révolution, de la contre-insurrection, des techniques pour faire une nouvelle police qu'on va utiliser contre la chienlit, les gauchistes, les ouvriers, les étudiants, etc. Sous Marcelin, donc Marcelin féru de contre-insurrection, un passionné, un nostalgique de l'Algérie française, etc. Donc Marcelin est l'un des grands ingénieurs des nouvelles formes de police, et donc lui va avoir cette idée-là d'aller piocher dans le répertoire de la contre-insurrection et de la contre-révolution coloniale. Et donc on va créer les brigades de surveillance de nuit, les BSN, qui sont là, pour le coup, proprement l'ancêtre des BAC. Ces brigades de surveillance de nuit, qui est-ce qu'on va aller chercher pour les commander? Eh bien, on va aller chercher les anciens qui s'étaient expérimentés dans les BAV, ceux qui s'étaient appliqués à terroriser les colonisés algériens. On va leur dire, bah, écoutez, maintenant, vos techniques qui fonctionnaient pas trop mal, vous allez les utiliser dans les quartiers populaires, dans les milieux ouvriers, dans les milieux étudiants. Ce qui fait qu'on voit se développer de plus en plus ces unités-là. C'est pas encore nationalisé. Dans certaines grandes villes, on crée des BSN, des brigades de surveillance de nuit. Et on se rend compte assez rapidement que ces brigades font pas mal de dégâts, qu'elles provoquent énormément. Et donc, en tout cas, elles créent du désordre. Et là, c'est une autre partie de mon travail, c'est d'essayer de montrer que le système sécuritaire, c'est un système qui vit d'une certaine forme de désordre. Alors, pas trop de désordre, parce que les classes dominantes n'ont pas intérêt à être renversées, mais qui vit du désordre parce que, disons, au milieu du XXe siècle, ont émergé ce qu'on appelle les complexes militaro-industriels, c'est-à-dire des consortiums géants qui vivent de l'économie de la guerre. Au début des années 70, le capitalisme se restructure face à ce que généralement on appelle la crise. En réalité, il se restructure et on va ouvrir des nouveaux marchés. On va ouvrir le marché du contrôle. Ça n'existait pas avant. Avant, le contrôle, ça servait à encadrer le prolétariat, à encadrer la classe ouvrière pour qu'elle continue à travailler et qu'elle ne se manifeste pas trop. Et bien, au début des années 70, depuis le marché de la guerre, va naître le marché de la sécurité. C'est-à-dire que créer des matériels de répression, créer des laboratoires de recherche et développement sur la sécurité, tous les idéologues de la sécurité, tous ces gens-là, vont naître une série de métiers, de matériels, d'équipements qui tournent autour des désordres. C'est-à-dire qu'il devient intéressant de provoquer certains désordres, des désordres pas trop énormes, parce que ça va générer du capital. Et les BAC, j'en reviens là, sont particulièrement intéressantes à ce niveau-là, puisqu'elles provoquent des désordres en permanence. À chaque fois qu'on les envoie, et donc on les envoie jusqu'au milieu des années 90, essentiellement dans les quartiers populaires, ça s'appelle d'ailleurs les BSN à l'époque, elles font énormément de désordres. L'histoire n'a rien de déterminé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui apparaissent à certains moments, et puis on va les conserver quand elles servent certains intérêts, quand elles entrent dans des rapports de force. En l'occurrence, revenons à Malek Houssekine, on se rend compte que les voltigeurs et leurs bidules, c'est pas très classe, ça tue dans l'espace public. Et ça, les démocraties spectaculaires, ça leur coûte très cher médiatiquement. un mort dans l'espace public. Mais le même jour, hein, Abdel, lui, a été tué dans un quartier populaire et ça s'est pas vu. Et donc là, ça pose pas de problème. Donc les voltigeurs, enfin la technique voltigeur, hein, on en finit avec ça après Malek Houssekine. Et qu'est-ce qui se passe ? Début des années 90, Pasqua revient. C'est la fin de la menace soviétique, etc. Les institutions répressives ont besoin d'un nouvel ennemi. Et donc Pasqua va s'intéresser particulièrement au quartier populaire. Et donc là, il va voir que ces brigades de surveillance de nuit, elles sont d'une assez intéressantes du point de vue du marché du contrôle, parce qu'elles font beaucoup de désordres, et donc ça permet de justifier un investissement massif dans la sécurité, dans la sécurisation. Il va voir qu'elles fonctionnent à peu près sur le modèle dont il est un passionné, c'est-à-dire la contre-insurrection. Et donc il va décider de les autoriser à travailler de jour, hein, ça c'était en 91-92, et de les nationaliser, c'est-à-dire de demander à toutes les grandes villes en France de mettre en place ce qui va désormais s'appeler des brigades anticriminalité. Ces brigades anticriminalité, elles sont organisées autour de la provocation. C'est-à-dire que dans leur formation aussi, la question d'aller agresser est fondamentale. Je reviens à l'histoire du système sécuritaire et à cette idée qu'il faut aller puiser, si vous voulez, la contre-insurrection coloniale, elle disait les milieux colonisés sont gangrénés par la subversion communiste. Et donc il faut aller taper dedans, il faut aller chercher pour se saisir des meneurs communistes. À partir de 68, et dans le système sécuritaire, on considère que les milieux populaires sont des milieux de prolifération de toutes sortes de nouvelles menaces, et donc il faut aller taper dedans pour les faire ressortir. Et c'est ce que fait la BAC, et c'est ce qui transpire dans leur formation. Par exemple, on explique aux BACEux, alors vous êtes sûrement un certain nombre à l'avoir vécu, le BACEux, le coude sur la vitre, hein, qui passe en voiture banalisée dans le quartier et qui regarde tout le monde comme ça. Alors, on peut prendre ça, mais au début, quand j'étais jeune, je croyais que c'était juste parce qu'ils étaient racistes. Et non, c'est pour ça que la question du racisme n'a pas tellement de rapport là-dedans, c'est une technique. Parce qu'on enseigne aux BACEux, parce que les BACEux sont, la BAC est une technique particulière, on leur dit, voilà, les quartiers populaires sont les milieux de prolifération de la délinquance, du crime, etc. Donc d'une, on leur fait peur, on les met dans une situation où ils vont employer la brutalité, et surtout on leur dit, en maintenant le regard, ceux qui ont quelque chose à se reprocher, ils vont partir en courant. Donc là, vous allez pouvoir les pourchasser. Et ceux qui sont naturellement anti-flics, et qui en fait ont juste marre de se faire contrôler 8 fois par jour, sans raison, et de se faire agresser, etc., bon, bah, ceux-là qui vont pas supporter le regard, hein, bon, bah, c'est que c'est des anti-flics, et c'est qu'eux aussi, ils ont quelque chose à se reprocher. Et à partir de ce moment-là, si quelqu'un bouge, eh ben, on va au contact, interpellation. Là, généralement, le harcèlement quotidien est constant. Dans les quartiers populaires, ça fait que ça dégénère très rapidement. Et donc là, on a un bâton, on peut mettre un outrage et rébellion, c'est déjà ça. Après, on peut faire une mise à disposition de l'officier de police judiciaire. Voilà. Et c'est comme ça, notamment, qu'on remplit les prisons. On revient aux prisons parce que ça fait partie de tout ce continuum de la sécurité. On est revenu plusieurs fois, et je termine là-dessus, sur l'idée qu'il faudrait quand même de la police pour les pédophiles, etc. 98% des gens qui sont enfermés en prison sont des gosses d'ouvriers. Des gens qui sont tombés pour des barrettes de shit, pour n'importe quoi, pour le fait qu'ils n'ont pas payé telle chose, etc., ou qu'ils ont volé, et bon, bref. La prison est le point final de tout un système de violence policière qui est lié aux rapports de domination. Le système de violence policière évolue en fonction des rapports de domination. Je conclue là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, on n'inventera pas, on ne créera pas une police sans violence policière. C'est pas possible. C'est un paradoxe total. Ce qu'on peut faire, hein, c'est transformer, la faire reculer. Et alors, ça, comment ça se passe? Ça se passe, et là, c'est mon point de vue, donc là, j'arrête. Je parle même plus, je parle pas en tant qu'universitaire ou quoi que ce soit. Je crois que ça passe par le fait de s'organiser. Entre nous, c'est ce qui se passe ici. Je crois que ça passe par un terme qu'il faut se réapproprier aussi, qui est celui d'autodéfense. C'est-à-dire qu'il faut reprendre conscience que c'est pas normal d'être encadré par la police en permanence, que ça, c'est lié au système capitaliste, c'est lié au fait qu'une classe dominante a besoin de rester en place et qu'elle a besoin d'encadrer les classes populaires. Et donc, en l'occurrence, peut-être que c'est pas une solution simple, mais il n'y a pas de solution simple à des problèmes aussi compliqués. On réduira pas la violence policière sans transformer les structures économiques, sociales et politiques de cette société, parce qu'elle en fait complètement partie. La question est de nous organiser par nous-mêmes pour se défendre, peut-être pour contre-attaquer et pour transformer ces structures-là. Voilà, je vous remercie.
Qui pour eux a bouclé plus que de raison. Autodidacte dans l'apprentissage et dans l'action. Étant donné qu'il nous spolie, on devient partisan de l'expropriation. Théorie analysée, acte décidé. On est prêt pour la propagande par le fait. On diffuse nos messages à la presse par communiqué. Même si les médias officiels ne cessent de nous boycotter. Sur les murs apparaissent nos slogans. Commandant Malik, mouvement autonome des banlieues s'adresse à chaque habitant. Désormais la moindre bavure aura sa réponse. Pour chaque assassinat, vos compagnies, on les défonce. Attentat ciblé, justice populaire, assassinat politique, commando Mali. Propagande armée, milice organisée, recherchée par les flics, commando Mali. Autonomie, avant-garde en action, autodéfense en pratique, commando Mali. Mouvement des banlieues, autogestion panique, en guerre contre les élites, commando Mali. Je te laisse deviner, monsieur l'agent de la paix, tu peux trembler. Guerre de classe, et à l'école on exige des moyens pour nos enfants, des emplois stables et des logements décents pour nos parents. Après pas mal de temps, à essayer d'obtenir les choses par la voie légale. Une seule porte s'est ouverte à nous, clandestinité et pratique illégale. Aucune cible civile ou innocente dans nos actions ne sont visées que les représentants de l'État répressif et les patrons. Les commissariats, lieux de l'infamie, signé commando Mali, guérilla, membre d'une armée d'insoumis. Attentat ciblé, justice populaire, assassinat politique, commando Mali. Propagande armée, milice organisée, recherchée par les flics, commando Mali. Autonomie, avant-garde en action, autodéfense en pratique, commando Mali. Mouvement des banlieues, autogestion panique, en guerre contre les élites, commando Mali. Porte-voix d'une future insurrection, pour eux nous sommes des Robins des Bois qui vivent dans une fiction. Attention à la désinformation, si nous sommes terroristes, eux sont des criminels de guerre en faction. Notre lutte est légitime, favorable à l'opinion, avant-garde utopiste qui vit dans l'illusion. Voilà comme ils nous décrivent, ridicule venant de la part de bourgeois qui parlent le nom d'un peuple à la dérive. Ils s'esclavent devant leurs convives, mais savent-ils vraiment comment nos frères vivent? Nous sommes une petite partie de ce mouvement de masse qui veut faire sombrer le pouvoir en place. Attentat ciblé, justice populaire, assassinat politique, commando Mali. Propagande armée, milice organisée, recherchée par les flics, commando Mali. Autonomie, avant-garde en action, autodéfense en pratique, commando Mali. Mouvement des banlieues, autogestion panique, en guerre contre les élites, commando Mali.
Oui, on a braqué, oui, on a fait ça, oui. Est-ce que c'est plus moral d'ouvrir une banque ou de l'attaquer? Nos défaites ne prouvent rien, si ce n'est que nous étions peu nombreux pour lutter contre l'infamie. Nous attendons que ceux qui nous regardent avec des yeux de spectateurs, que ce soit eux qui aient honte de ne rien avoir fait.
Oui, dans l'affaire Hajimi et dans plusieurs cas similaires, on remarque toujours que c'est soit les municipaux, soit la nationale qui trinquent et jamais la BAC. Alors est-ce qu'ils jouissent vraiment d'un statut d'impunité totale ou est-ce que c'est une technique? Comment ça se fait que les municipaux ne s'en prennent pas au système? Enfin, voilà, on a étudié plusieurs cas et c'est toujours la même chose. Les municipaux et les nationaux qui trinquent.
Alors merci, c'est les 3 minutes qui me manquaient justement. Donc il y a quelque chose que j'ai pas eu le temps de développer, là-bas qui est lié à ça, qui est quelque chose que j'appelle l'hypothèse de Casamayor. Casamayor est une sorte de juge assez étrange, une sorte de juge subversif, quelqu'un d'assez inclassable, qui a écrit un livre au début des années 80 qui s'appelle La Police, et dans lequel il pose une hypothèse liée à son expérience où il dit: le pouvoir a un problème avec sa police, c'est-à-dire qu'il doit toujours se protéger de sa police. Et donc pour se protéger, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être défendu par elle, et donc si elle arrête de le défendre, il est tout seul, il n'a plus d'armes de coercition. Et donc pour s'assurer que la police reste autour de lui, il a donc besoin de développer une haine de la police dans la population, et il a besoin aussi de laisser la police se faire haïr de la population, c'est-à-dire qu'il a besoin de la laisser engendrer des actes qui provoquent de la colère. C'est-à-dire qu'il a besoin que la police aussi soit haïe. Et donc, la BAC, là, en l'occurrence, ça se pose exactement de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la BAC est intéressante parce que elle renforce les contradictions, mais il faut s'en protéger. Et donc la BAC, beaucoup plus que les nationaux ou les municipaux, quand, puisque ça arrive beaucoup plus souvent, ils tuent quelqu'un ou qu'ils sont accusés de violences policières, etc., eh bien il faut d'autant plus leur servir des proies. Il faut leur servir, c'est ce qui s'est passé à Villiers-le-Bel, notamment. À Villiers-le-Bel, la justice a arrêté complètement de faire semblant de protéger la population, etc. À la fin du procès à Villiers-le-Bel, la juge a dit... Et je remercie, je tiens à soutenir absolument la police qui se dévoue corps et âme pour protéger les citoyens, etc. C'est-à-dire qu'elle a arrêté de faire semblant qu'elle était neutre, et on a livré aux policiers, sur un plateau d'argent, des proies, des boucs émissaires, parce qu'ils le demandaient. Et il y a une rupture très forte dans la police en ce moment, une rupture sur la droite, pas sur la gauche, où on dit, donnez-nous le droit de tuer sans la légitime défense, c'est-à-dire comme les gendarmes, juste avec sommation. C'est-à-dire, en fait, et là, c'est ça la seule chose qui différencie le maintien de l'ordre de la guerre. Et les gendarmes, d'ailleurs, c'est une force militaire. La police demande à ce que, quand on... Sarkozy, enfin, d'ailleurs, j'insiste là-dessus, mais c'est pas Sarkozy hein, qui a mis en place la violence policière. Hein, ça fait de gauche comme de droite. Et depuis, on l'a dit, depuis 1789. Bon, bref. Le pouvoir est tenu de cajoler l'avant-garde de ces forces répressives, et en l'occurrence les BAC, mais il se passe la même chose par exemple avec les forces commando dans les unités militaires. C'est-à-dire la BAC, c'est vraiment l'équivalent des forces spéciales, et il se passe la même chose. C'est-à-dire que le système d'impunité est encore plus fort pour ces unités-là, parce que c'est celles qu'on doit absolument garder autour du souverain, parce qu'elles sont, elles sont à l'avant-garde de la protection des classes dominantes.
Dans votre intervention, vous avez parlé du fait que plus les inégalités sont grandes, plus la violence policière est forte, hein, j'avais bien compris. Et vous avez aussi parlé d'une étude comparative qui a été faite entre plusieurs pays. Mon pays d'origine, donc l'Angleterre, est une société extrêmement inégalitaire, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Je voudrais savoir si vous pouvez me dire si les violences policières sont plus importantes en Angleterre.
L'Angleterre, c'est justement un cas extrêmement intéressant parce que j'ai parlé de transformation des violences policières. J'en parle pas en termes de quantité parce que ça veut pas dire grand-chose en quantité. Le fait est, les policiers sont pas armés en Angleterre. Déjà, ça, c'est quand même une condition, ça change beaucoup de choses.
Sauf brigade spéciale.
Mais les policiers de rue, les policiers en tenue ne sont pas armés et ils sont pas habilités à contrôler les identités. On ne leur demande pas en permanence de contrôler les identités pour faire du chiffre à l'expulsion ou simplement pour faire des mises à disposition, etc. Mais le système de violence policière, il existe et c'est juste qu'il faut le voir de manière différente. L'Angleterre, c'est un système qui tient ses classes dominées en utilisant beaucoup moins la violence policière, mais en utilisant beaucoup plus la surveillance et l'intersurveillance. C'est le laboratoire international de la vidéosurveillance, avec ici. Et de la vidéosurveillance interactive avec des chaînes de télévision où si vous n'avez rien à faire parce que vous êtes au chômage, et ben en plus de ça vous pouvez surveiller votre voisin, où on voit apparaître les fichiers des gens qui sont surveillés, donc vous voulez même aller les chercher dans votre quartier, essayer de les suivre à la trace, appeler la police quand vous voyez qu'ils ont fait un geste, etc. Bref, moins de meurtres, plus de surveillance, c'est-à-dire qu'il faut juste prendre les dispositifs de surveillance comme appartenant à tout le système de contrôle, et en l'occurrence, quand on tue moins, souvent on surveille plus, on contrôle plus.
D'accord, on va aller vivre en Angleterre.
Moi j'ai une question très simple, et la question du malaise dans la police et des suicides.
Vous voulez que je vous donne une explication?
Il y a peut-être des chiffres, parce que tu les connais?
Non, il y a effectivement beaucoup de suicides.
Oui,
non, j'ai pas les chiffres, mais il y a beaucoup de suicides dans la police. La police, c'est aussi des travailleurs qui sont manipulés par le pouvoir. On les envoie dans des situations qui ne sont pas gérables. Et donc voilà, ils ont peur. Et ils se suicident aussi, comme les gens de France Télécom, comme les prisonniers, comme plein de gens.
Une question très brève à Mathieu Rigouste. Il a fait allusion à Sarkozy et donc à l'élection de 2007. et il a dit les violences policières, elles ne sont pas nées en 2007. Mais est-ce que, de son point de vue, parce que nous, en tant que militants, on a parfois le sentiment d'une accélération du mouvement. Est-ce que, oui ou non, tu penses qu'il y a une accélération des violences policières et des systèmes de quadrillage? Par exemple, à la Villeneuve, tu as parlé de Grenoble, on a vu intervenir des hélicoptères. Est-ce que, oui ou non, tu penses qu'il y a une accélération du processus d'encadrement tel que tu l'as décrit?
Complètement. Enfin, après, il y a plusieurs facteurs. Là, les hélicoptères, les flashballs, les tasers, etc., ou même l'utilisation de la BAC avec des CRS, avec des forces spéciales de la gendarmerie ou de la police, tout ça, ça a un lien avec un phénomène dans lequel on s'est posé des questions, mais qui est maintenant évident, qui est un phénomène de militarisation de la police et de policiarisation du militaire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une forme d'hybridation entre ce que classiquement l'État-nation appelait le maintien de l'ordre et de l'autre côté la guerre, tout en train de se brouiller, parce que le capital suit une expansion tellement massive qu'en fait c'est l'économie de la guerre qui se généralise. Et en l'occurrence, oui, il y a une extension des violences policières, il y a peut-être une intensification, c'est évident, c'est lié, alors moi je pense donc à l'augmentation des contradictions, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pauvres, de précaires, etc., donc il faut les tenir de plus en plus durs. Hein. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça se développe dans les quartiers populaires, ça ne se développe pas contre rien, c'est aussi parce qu'il y a une résistance dans les quartiers populaires, et qu'en l'occurrence, la jeunesse qui subit la ségrégation policière et le harcèlement et la traque, etc., maintenant elle commence à avoir une mémoire des luttes. Et depuis le début des années 90, elle n'accueille pas la police de la même manière. Alors je vous laisse en juger, vous en faites ce que vous voulez, mais en l'occurrence, il y a militarisation et il y a augmentation du système répressif aussi, parce qu'il y a une autodéfense réelle qui existe de la part souvent des jeunes, mais pas que, parce qu'on le sait très bien, moi je l'ai vécu, en tout cas à Gennevilliers, oui, il y a des jeunes en bas, seulement il y a des mamans en haut qui savent qu'ils sont en bas et qui sont inquiètes, mais savent pourquoi ils sont en bas et peuvent le justifier, etc. En tout cas, quand il y a révolte d'un quartier populaire, c'est pas juste des jeunes mâles, c'est une révolte du quartier, assez généralement. Et donc, en l'occurrence, l'intensification, l'expansion du système de violence policière, il est lié au fait aussi, et faut pas se le cacher, on ne peut pas que prendre dans la tête sans réagir, etc., aussi au fait que les dominés ne se laissent pas soumettre sans combattre.
Est-ce que vous avez entendu parler de cette mise en place, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de citoyens armés pour faire des pseudo-milices? Il suffit d'avoir 18 ans, d'être nationalité française, de ne pas avoir commis, de ne pas avoir de casier judiciaire. Policiers de réserve qui peuvent être appelés pour des situations particulières.
Donc, on a commencé déjà à être mis en place dans les
appareils. Oui, il a été dit qu'en
Colombie. Attendez, il y a quelqu'un qui me dit à côté de moi que ça existe déjà chez les gendarmes.
Bon, alors, j'ai une disposition dans la LOPSI. Ils ont dit que ces gens-là ne seraient pas armés, qu'ils ne seraient pas employés dans la répression des quartiers populaires. Bien entendu, s'ils le disent, c'est qu'ils se posent la question. Et en l'occurrence, il y a un paquet de villes qui a déjà utilisé ça, et qui utilisent ça un petit peu quand ils veulent. Où j'étais en 2005 pendant les révoltes, pas à Gennevilliers même, mais à Asnières, juste à côté. À Asnières, la police a prêté ses voitures à des groupes de citoyens volontaires qui patrouillaient, c'était pas armé, mais ils patrouillaient dans le quartier avec des vraies voitures de police. Et donc il n'y avait pas besoin d'encadrement juridique pour ça, ça s'est fait parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de. Enfin, ça se met en place. Dans la gendarmerie, la réserve de la gendarmerie, pareil, c'est quelque chose qui est en place continuellement. Tout à l'heure, on parlait de l'intervention de l'armée en banlieue, mais de toute façon, les textes juridiques qui permettent l'emploi de la troupe à l'intérieur du territoire, ils existent en permanence. Sauf que là, effectivement, l'armée s'entraîne de plus en plus à la guerre urbaine. Alors, en théorie, pour aller s'en servir à Abidjan, à Sarajevo, etc., sauf que, bien entendu, ça peut servir à plein d'autres choses. Et en l'occurrence, là, il y a aussi beaucoup de militaires qui s'opposent à l'idée d'être envoyés à l'intérieur du territoire. Et voilà. Et juste, je voulais vous répondre, je trouve ça effectivement très important de souligner la puissance des dominés, le fait qu'on gagne parfois certaines choses. Et pour en revenir à la question de la prime à Jimmy et de tous ceux qui subissent les violences policières, on gagne parfois, et en tout cas, on a cette possibilité, on a cette puissance, on a cette capacité de gagner complètement en s'organisant. Mais je crois qu'il. Moi, c'est une réflexion que je me fais à moi-même, c'est-à-dire que à focaliser sur les mécanismes du pouvoir, des fois on oublie aussi de regarder notre capacité à nous libérer, à nous émanciper, et on oublie le fait que on a tous par principe ce pouvoir d'être un jour plus libre et de résister, et que ça arrive en permanence, qu'on n'a jamais vu une société avec des gens totalement soumis. D'ailleurs, la violence policière, ça démontre ça aussi, sur les théories des sociétés de contrôle. Sociétés de contrôle, ça aurait dû être des sociétés totalement pacifiées, où les gens étaient manipulés complètement, ils faisaient plus rien. Bon, ben, la violence policière, ça nous montre quoi? Ça nous montre que les dominés ne se laissent pas faire, aussi. Qu'on ne peut pas les contrôler simplement avec de l'idéologie, avec un salaire à la fin du mois, avec des promesses, etc. Que les gens ne se laissent pas faire, et que rien n'est perdu.
Juste une question, je rebondis sur ce qu'a dit Ciel tout à l'heure. En parlant en fait de sa naïveté, que je pense sincère, c'est bon hein?
Oui.
Je pense sincère quand elle dit je vais rentrer dans la police pour vraiment servir et tout ça. Et ce que tu dis, toi, quand tu dis violence policière, la violence c'est partie de la police. C'est leur quotidien, c'est tous les jours, ils servent de la violence. Alors comment, en mettant de côté les 200 suicides, parce que 200 suicides c'est une minorité de policiers qui se suicident dans l'année. Oui, on a plus que 200 quand même. Et est-ce que ces policiers qui acceptent, qui sont là, qui continuent à travailler, est-ce qu'à un moment, et qui sont arrivés de manière tout à fait naïve, avec de bonnes intentions, comment ils font et comment ça se fait qu'ils restent dans la police et qu'ils font des carrières jusqu'à la retraite en acceptant tout ça, en étant ou spectateur ou acteur, mais témoin, mais voilà.
Je peux censurer.
Mais non.
Moi, je ne travaille pas à partir d'entretiens avec des policiers. Par contre, je vous fais les travaux de Maurice Rachus, qui a travaillé 50 ans sur la police et qui explique qu'on n'entre pas impunément dans la police, ou en tout cas, si on y entrait par naïveté, une fois qu'on a compris, on peut en sortir. En tout cas, ceux qui y restent sont formatés par un système de la violence. Peut-être, hormis quelques policiers de bureau qui ne s'y confrontent jamais, en tout cas les policiers en tenue et ceux qui sont amenés à pratiquer le métier de policier, pas ceux qui font du travail de bureau ou de garde à l'entrée des monuments historiques, ceux qui restent dedans n'y restent pas dedans impunément. Et encore plus pour la BAC. La BAC, j'ai oublié de le dire, mais on s'engage volontairement dans la BAC. Il y a des gens qui aiment ça, il y a une économie psychique. Un plaisir morbide chez certains dans l'emploi de la violence, il ne faut pas se le cacher. C'est quelqu'un qui parle de fascisme là. Le fascisme, ça fonctionne quand on arrive à le faire désirer par les gens. Ça repose aussi sur des pulsions, des choses comme ça. Bref, tout ça c'est pour dire que il n'y aura pas de changement sans rupture dans les appareils répressifs, et c'est pour ça aussi qu'il faut parler, je pense aux policiers. Moi, personnellement, j'ai du mal. Mais qu'il faut les engager, il faut leur montrer que leur pratique, ça sert les rapports de domination, ça sert les classes dominantes, et qu'ils seront beaucoup plus heureux avec nous dans une société égalitaire, où ils ne seront plus obligés de se suicider pour gagner 1200 euros par mois, et où on partagera, où on s'entraidera. Société égalitaire, ils sont plus heureux avec nous et je pense qu'il faut leur rappeler.
D'abord, je remercie votre exposé, il a été très intéressant, avec lequel je suis d'accord, mais quand même, il y a un problème, c'est-à-dire que, en attendant cette société égalitaire, actuellement à la CRO, par exemple, le maire a organisé, mais incognito, des référents. Sur 16 000 habitants, il y a 200 référents. Et ça sera un travail de milice, en gros. Ce sera un travail de milice. Et la loi PSI 2, actuellement, est en train de créer, comme on l'a dit tout à l'heure, un corps de volontaires, ça peut être des jeunes qui sont au chômage et qui auront besoin d'avoir un casier judiciaire vierge, et ils pourront porter une arme. Ils pourront porter une arme et puis être des auxiliaires. Donc je crois qu'actuellement on est face à ça. Et c'est face à ça. On est obligé, là, d'une certaine manière, de défendre les concours des CRS et de quelque part approuver les syndicats de police qui protestent. Je veux dire que qu'est-ce qu'on fait là? Voilà. En attendant la société égalitaire, et comment on l'a fait cette société égalitaire? Je veux dire que la réalité, elle est pleine de contradictions. Et dans une action, on est obligé d'être dans la contradiction. On ne peut pas être angélique. Voilà, c'est c'est ça que je ressens par rapport à votre analyse. Mais votre analyse est juste. Mais je veux dire, quant à l'action, c'est là qu'il faut discuter, c'est de ça dont il faut discuter.
Par contre, moi, je suis pas d'accord avec vous sur deux points et avec Mathieu, c'est que j'ai l'impression que vous diabolisez la police, toute la police entière. Et vous n'avez pas compris que oui, il y a bien sûr que l'institution est pourrie. Ça, c'est l'institution qui pourrit, le système qui pourrit, qui rend les policiers comme ça. Mais quand il dit oui, tous les policiers, parce que Mathieu, en gros, ce que je comprends, c'est que quand on rentre dans la police par vocation, eh ben quand on trouve une police comme ça, ben on part. Ben non, on part pas, parce que si tous les bons partaient et tous les mauvais restaient, eh ben on aurait quoi? Parce que la police, on peut pas vivre sans la police, on peut pas, et ça serait l'anarchie. Donc faut se battre. Que... Donc il faut qu'il y ait une police, parce que c'est qui va mettre les violeurs, excusez-moi, mais pour garder la réalité, il y a des violeurs, il y a des tueurs, et ça existe aussi ça, et ils existent, et il faut bien des policiers pour les mettre en prison, ces gens-là. Et si la police ne le faisait pas, qui va le faire?
S'il vous plaît.
Donc au contraire, faut se battre de l'intérieur et de l'extérieur, comme on le fait maintenant, pour qu'on se batte, pour qu'il y ait une police républicaine, pour qu'il y ait une vraie justice, pour que le système change. Et pour qu'on améliore les choses. Voilà.
Il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit tous les deux qui me font dire ça. Et je voudrais un peu... Ça vient dans ce que tu dis là, Esther. Tout à l'heure, Mathieu, il a dit que dans les prisons, il y avait 98% des gens qui étaient en gros des fils de prolo, qui sont coupables de petits délits. Ça veut dire qu'il reste 2% des gens dans ces prisons qui sont coupables de graves délits, de choses... criminels, comme tu dis, les violeurs, les assassins, les barbares, comme on a vu il n'y a pas longtemps, qui découpent des nanas pour les jeter dans un lac. Ces gens-là, c'est des malades, c'est des graves malades. Ça veut dire qu'il y a une grande majorité des prisonniers qui sont des gens qui sont coupables de toutes petites choses et que le reste, c'est des gens qu'il faudrait soigner. Et donc, je voudrais juste parler de ça parce que ça pose la question quand même de aussi du traitement, je sais pas, de la psychiatrie, de choses comme ça dans cette société. Des gens qui sont, qui ont chaviré, quoi. Et ça m'amène à une autre petite réflexion. C'est que depuis tout à l'heure, quand on parle de prévention dans la police, c'est pour ça que je dis ça, parce que je pense que je ne sais pas si le rôle de la police, c'est de faire de la prévention. Et je me demande ce que c'est que la prévention dans la police. En tout cas, à chaque fois qu'on parle de prévention depuis ce matin, quelles qu'aient été les interventions, on parle de match de foot. Alors, pour moi, ça a été cité au moins 3 fois. C'est juste que je trouve que ça montre un peu le vide conceptuel qu'il y a autour de cette notion de prévention dans la police.
Non, moi, je voulais juste faire d'une certaine façon un témoignage par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je reviens un petit peu en arrière dans le débat, on disait que très facilement, ben, quand on est en permanence provoqué par les policiers, qu'on est contrôlé 8 fois par jour, etc., qu'on est arrêté, ben, très facilement, quand on se fait arrêter ou simplement contrôle d'identité, on a une rébellion facile. C'est-à-dire que ça devient normal, c'est ce que vous avez dit. Hein.
C'est humain, moi je le
dis, humain.
Citoyen.
Et que donc dans ce cas-là s'enclenche un processus classique qui est le fait de se retrouver dans la justice, d'être systématiquement condamné avec les copains policiers qui témoignent, la justice ne se posant aucune question. C'est-à-dire qu'en fait, le juge travaillant avec les services de police estime qu'il a le devoir que le policier qui est en situation d'asserrenté, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de déposer de serment, le policier par définition ne ment jamais, c'est ce qui est marqué dans le code, la justice estime que quasiment systématiquement on doit au policier le fait de condamner avec le moyen d'intérêt, etc. Je voudrais dire que on part du prémisse qu'il y a eu une rébellion. Je veux apporter le témoignage. Moi, dans les 2 derniers mois, j'ai été arrêté à 3 reprises et mis en garde à vue. Et à chaque fois, sur ordre du préfet, semble-t-il, on a voulu me coller une rébellion. Je peux vous garantir qu'il n'y avait aucun fait de rébellion. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle ce n'est pas allé jusqu'au bout, c'est que le procureur de la République à Nice a refusé de bloquer... à bloquer les choses, hein, c'est-à-dire, mais sinon je me serais retrouvé comme n'importe quel jeune ou vieux, peu importe, pauvre, devant la justice, et j'aurais été condamné, bien évidemment, quoi. Donc je peux dire que ne partons pas du principe que parce que quelqu'un se retrouve dans la justice accusé de rébellion qu'il va être condamné. Il y a eu effectivement une rébellion. On est éventuellement condamné s'il n'y en a pas, et donc pour illustrer ce que je dis, ma première affaire n'a pas eu lieu à Nice, mais il y a eu lieu sur le territoire de Grasse. Et dans ce cas-là, donc, je passe le 17 février donc, au TGI de Grasse. Et j'espère que j'aurai votre soutien donc, pour entrave à la circulation et refus de déposer mes empreintes lors d'une manifestation où il y avait 30 000 personnes dans la rue légale, c'était sur les retraites. Hein.
Sur l'armée professionnelle, c'est un mouvement global et qui a notamment un lien avec le fait d'éviter les rébellions internes et qui a un autre, enfin, où on, avec des professionnels, on est sûr, ils sont engagés pour ça, ils sont bien formés, etc. Et qui a un lien aussi avec le développement du capitalisme, c'est-à-dire qu'on veut des armées, on veut rationaliser les forces de guerre, c'est-à-dire qu'il faut des choses qui fonctionnent, qui sont efficaces, etc. Juste pour dire un mot sur le. À chaque fois, parce que là, pour le coup, les mots sont importants, à chaque fois, justifier l'existence de la police par les pédophiles, franchement, c'est absurde, ça ne veut rien dire, ou par les femmes battues. En l'occurrence, les femmes battues, c'est pas parce qu'on mettrait l'homme violent en prison, pour en finir avec ça, il faut changer les structures. Et les structures des violences faites aux femmes, ça s'appelle la domination masculine, on n'en sortira pas comme ça, et c'est les femmes. Les femmes qui s'organiseront par elles-mêmes pour en finir avec ça, les mettre en prison, ça réglerait peut-être le problème sur un cas particulier, mais en tout cas, ça ne changerait rien. Et une dernière fois, les mots sont importants, vous avez parlé d'anarchie, je me permets de glisser un mot, l'anarchie, ça veut dire pas de pouvoir, c'est-à-dire que les dominants s'en servent pour dire c'est le bordel, ah, c'est l'anarchie, etc. Les anarchistes utilisent ce mot-là pour parler d'un système totalement égalitaire, où le pouvoir est partagé par tous, où le travail, les biens, et l'ensemble de la société est organisée par tous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est
une bonne chose, c'est ça. C'est l'autogestion.
C'est l'autogestion de la production. Et l'anarchie veut dire, en fait, en tout cas dans la bouche des anarchistes, l'émancipation absolue et l'ordre parfait, mais l'ordre par le peuple, pour le peuple.
Les casquets, les fusils lance-grenades et les grands boucliers, tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains, il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près, eux devaient la boucler, nous pas et on chantait.
Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien on paye pour faire ça?
Combien ça vaut? Quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien contre toi? Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends.
Oh, allez les gars, combien on paye? Combien on paye pour...
qu'on voit jamais dans la bataille, pendant que tu encaisses des cailloux, empêche les dents, ramasse les sous. Avoue franchement que c'est quand même pas la vie que t'avais rêvé pour toi. Cogner des gens pour faire tes heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur.
Oh allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça? Allez les gars, combien on paye, combien on paye?
Je ne me fais guère d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter dans deux minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter, t'es bien dressé, baratiné.